L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve comme chaque samedi 16h-18h sur BFM Business. C'est l'atelier numérique. Et en ce 19 décembre 2015, on vous souhaite bien sûr d'excellentes fêtes de fin d'année. Sachez qu'on va faire un petit break pour l'atelier. On va vous proposer pour les deux semaines qui viennent, donc la semaine de Noël et la semaine du 1er janvier, eh bien des best-of, une sélection des meilleurs moments qui arriveront. Et puis on sera de retour pour un spécial CES de Las Vegas. Voilà, et oui, on repart tout de suite sur les chapeaux de roue. Mais en tous les cas, pour cette émission, bien sûr, toute l'équipe est là avec quelques petites surprises. Nous allons tout à l'heure retrouver notre Silicon Carnet, notre Cyber Gadget, notre Focus Startup, notre enquête de l'atelier. On s'intéressera à deux pépites françaises qui s'attaquent à la contrefaçon sur Internet. Vous verrez, c'est passionnant. On fera aussi un fight entre les innovations américaines versus innovation asiatique avec Nathalie Doré et Jean de Chambure. Ça s'annonce chaud. Notre passion selon Sanet. Vous connaissez l'internet des objets? Eh bien là, on vous fera découvrir l'internet des drones. Notre World Tour aussi, notre French Tech Tour, l'actualité vue par l'équipe de 01net et Eric Le Bourlou tout à l'heure. Guillaume de Groisse nous parlera d'intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, Antoine Cyr, que je salue, qui est là. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors attendez, Nathalie, parce qu'il y a Nathalie aussi à côté.
Alors justement, voilà. Non mais justement, alors
il y a du monde autour.
Je voulais quand même
IRL,
enfin ça a été un choc, mais un choc de bonheur pour moi, que de voir en même temps et IRL dans ce studio Nathalie Doré qui travaille en Californie et Jean de Chambure qui travaille en Chine.
C'est bon.
Et tous les deux, permettez-moi d'exprimer votre petite note personnelle. Tous les deux, je les ai vus naître.
Oui, c'est
quasiment.
Vrai.
C'est vrai. On confirme.
Un pot de yaourt,
Voilà. Nathalie, j'allais lui acheter pratiquement du blé.
Bon, écoutez, alors là, en fait, au lieu d'être dans la prospective, on est dans le, si vous voulez, dans le passé. Là, ouais. Mais c'est pas mal, hein.
Mais oui, mais il faut que les prospecteurs grandissent.
Et évidemment. Donc, voilà. Mais là, regardez, ils sont
pas forts. Vraiment grandir. Hein.
Et oui, on est ravis d'avoir Nathalie Doré et Jean de Chambure. Nathalie qui est basée à San Francisco et Jean de Chambure qui est en Asie. Voilà, ravi de vous retrouver tous les deux.
Voilà, je suis très content.
Et Guillaume de Groisse aussi, bien sûr. Merci. Guillaume de l'atelier.
Mais je suis pas allé lui acheter du Blédina.
Allez, on commence par l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier. Nathalie, on ouvre le bal par vous.
Oui, alors moi je voulais vous parler de nouveaux médias. Parce qu'en fait, voilà, Internet a aussi fait naître des nouveaux médias et beaucoup d'entreprises se demandent comment elles vont les utiliser. Et je voulais souligner une initiative qui était intéressante le week-end dernier. Là, on retombe sur le sujet de politique 2.0, qui est Libération, qui a ouvert sur WhatsApp un fil de discussion pour pouvoir pousser les informations concernant les résultats. Et WhatsApp, alors rappelons-le, hein, c'est 900 millions d'utilisateurs dans le monde. Mm-hmm. C'est un média qui est énormément utilisé et qui est complètement sous-exploité par les marques aujourd'hui.
Ouais, alors, qui appartient à Facebook. Hein,
voilà, et Facebook a une approche, il va bientôt y remédier. Il commence à proposer aux marques de venir sur Messenger et je pense que le prochain pas, ce sera sur WhatsApp. Et dans la même veine, c'est Snapchat aussi qui vient et qu'on n'imaginait pas parce qu'on a toujours cette image d'éphémère et du coup, on pense forcément que c'est pour les jeunes qui s'échangent des photos. Eh bien non, Snapchat a ouvert aussi une fonction qui permet d'accéder à une sorte de mini-kiosque, c'est Discover. Et aux États-Unis, beaucoup de médias s'y sont mis. Mm-hmm. Et je pense que ça va ouvrir la voie à une nouvelle consommation des médias. Et ça fait aussi penser, voilà, dans ce monde d'infobésité avec toutes ces informations où on est en surcharge, eh bien finalement avoir du pool, et c'est vraiment l'approche de WhatsApp, avoir du pool d'informations qu'on a choisi, mm-hmm, est vraiment un plus et c'est vers là qu'on tend. Alors après, la place de la publicité là-dedans est un vrai challenge pour les marques.
Jean de Chambure.
News.
Oui, s'il vous plaît.
Petite news sympathique, qui est quand même aussi pour casser un peu un mythe toujours de la peur que la Chine va tout envahir, tout casser, etc. Enfin, faut un petit peu, voilà.
Donc, enfin, vous êtes là en plus pour contenir tout ça. On vous envoie là-bas pour ça aussi. Hein.
Une petite
mission comme ça.
Vous savez, par exemple, Alibaba est en France depuis le mois d'octobre. Bon. Ils sont là principalement pour s'occuper du business entre la communauté chinoise en France et la Chine, mais ils vont aussi aider des exportateurs français. L'exemple intéressant, c'est Tmall. Vous savez que Tmall, donc, c'est un des grands sites d'Alibaba, qui fait un partenariat avec Marseille pour l'exportation de tous les produits de Provence, le savon et autres.
L'huile d'olive.
Exactement.
Les santons.
Et tout ça va directement.
Ça se vend en Chine.
Ah ben oui. Donc tout ça, ça va directement en Chine.
Tiens.
Et donc voilà, je trouve que c'est une belle initiative. Bon, et il y en aura d'autres.
Avant de trouver la news de Guillaume, mon cher Antoine, qu'est-ce que vous avez pour nous ?
Oh bah, des drones policiers pour surveiller d'autres drones.
Ah bon ?
Bah oui.
Faites attention, parce qu'un drone policier pourrait s'intéresser à Jean de Chambure.
Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est pas très très loin de chez lui, parce que c'est en fait au Japon que les autorités en ont eu un peu marre des drones qui circulaient là comme ça, sans autorisation. Vous savez, par exemple, qu'il y a quand même un drone qui est allé se frayer tranquillement un chemin sur le toit du logis du Premier ministre et qui transportait un matériau radioactif.
Ah bon ?
Donc, ils ont quand même trouvé ça moyennement désopilant. Non, je dirais pas ni bon ni mauvais, mais plutôt mauvais.
Ah bah bravo.
Celle-là.
Ouais.
Bon. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir des drones qui vont être plus gros et qui vont être équipés de filets. Des drones à filets.
Pour capturer les autres drones.
Pour capturer les autres drones.
Ah ouais,
je trouve ça formidable.
C'est la chasse aux drones.
C'est
la science. Le chasseur de drones va aller au-dessus de l'autre drone, il va lui jeter un filet.
En fait, une fois qu'il y a un drone qui a été repéré, il y a un policier quand même, un vrai cette fois-ci.
Ah,
enfin, un drone.
Il n'est pas en l'air.
Non, il n'est pas en l'air. Enfin, j'en sais rien. Il est où il peut. Hein.
Oui. D'accord.
Et donc, le policier communique avec le pilote du drone pour lui demander de quitter la zone. Et s'il voit que le drone ne s'exécute pas, si en ayant lancé un appel, il n'y a rien qui se passe, parce qu'on présume quand même que le pilote du drone n'est pas très loin.
Oui.
Donc, si en ayant lancé un appel à la cantonade, il ne se passe rien, à ce moment-là, le drone policier intervient. Donc pour l'instant, c'est en phase test, mais vous n'avez plus que jusqu'au mois de février pour envoyer des drones de votre cru sur le toit du Premier ministre japonais, parce qu'à partir de février, c'est terminé.
C'est capote. Voilà. Guillaume.
Alors, moi j'avais envie de vous parler de ce qu'on appelle les nouveaux modes narratifs à la télé. Pourquoi ? Parce que la BBC est en train de tester, alors ce n'est qu'un test, hein, pour l'instant il n'y a qu'une vidéo de démo, mais ils sont en train de tester un nouveau concept de show télé qui va s'adapter à la personnalité du téléspectateur. Là, ça devient complètement fou. C'est vraiment l'émission dont vous êtes le héros. Un peu comme les livres quand on était petit. Voilà. Donc, le projet, ça s'appelle le Visual Perceptive Media. Et ça a pour but d'adapter le scénario directement du programme en fonction de la personnalité et des goûts de celui qui le regarde. C'est-à-dire que moi, sur ma petite application BBC, je vais pouvoir dire « je m'appelle Guillaume, je renseigne mes goûts musicaux, je renseigne ce que j'aime dans la vie, je réponds à tout un tas de tests de personnalité pour savoir si je suis plutôt créatif, extraverti, si j'ai confiance en moi.
Mmh. »
Et en fonction de tout ça, l'émission va s'adapter à moi, à ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Et en fait, les scènes sont plus ou moins longues, plus ou moins différentes en fonction des réponses. La lumière peut s'adapter. On se rend compte que les coloris de l'image peuvent différer, qu'il y a d'autres bandes son, etc., etc., etc. Alors, c'est très très expérimental comme projet pour le moment, mais on peut imaginer que d'ici quelques mois, quelques années, quand on regardera une émission de télé, finalement, ce sera une émission de télé qui sera complètement adapté à ce qu'on a envie de voir. C'est-à-dire que bientôt, on va faire du big data, y compris pour nous proposer nos propres programmes de télé.
Mais toutes ces versions, tous ces éléments, ils auront été enregistrés en différé. Enfin, comment ça va ? Comment ça se passe ?
C'est ça la beauté du projet. C'est qu'en fait, ils auront créé toutes les possibilités.
Plusieurs scénarios, en fait.
Exactement.
C'est ça.
Comme dans les livres, quand même, dont on est le héros. Voilà,
exactement. Tout sera déjà là, préenregistré, etc. Et la machine déterminera, en fonction de qui elle a en face de l'écran,
d'accord,
ce qu'il a envie de voir.
Mais il n'y a pas un générateur de péripéties.
Oui, en temps réel.
En temps réel.
Non, ça, c'est impossible.
Mon cher
gérer,
Antoine,
en fait.
C'est la BBC, quand même.
Oui. Merci, Guillaume. Allez, encore une petite news avec vous, Jean de Chambure.
Oui, alors ça, c'est une news qui est Apple qui serait à Taïwan avec une usine R&D pour les écrans OLED. Alors les écrans OLED, ça c'est très intéressant. Vous voyez ce que c'est que les écrans OLED. En français, c'est les écrans de l'eau pour diode électroluminescent organique.
Et les AMOLED, c'est pareil.
Ah, ça, c'est les clés AMOLED.
Non, il y a les AMOLED.
Oui. Là, oui, les, ça, c'est autre chose. C'est
François,
les vieux écrans.
Les AMOLED. Entre oui. les, vous, le vôtre, il s'appelle comment?
Alors, moi, j'ai un LCD, si vous voulez. Donc, c'est une, en fait, c'est un éclairage indirect, pour faire assez simple. En gros, vous
allez,
avez.
Allez, Jean, allez-y. Bon. Expliquez-nous tout. Il y a un tableau blanc, là.
Alors, bon. Vous prenez une dalle. Cette dalle est composée de cellules qui sont remplies de cristaux liquides rétro-éclairés. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des filtres qui vont, en dessous de cette dalle se charger de faire de la lumière. Chaque pixel de l'écran va se composer de rouge, de vert et de bleu, et donc voilà, ça va faire de la lumière. Mais surtout, derrière, il y a une lumière.
Oui, bien sûr.
Il y a une grande nouveauté.
Ça, c'est du LCD.
Voilà, bon, c'est ce qui existe aujourd'hui. Mais la grande beauté du OLED, c'est que.
On n'a pas besoin de rétroéclairage. Chaque pixel, en fait, s'allume.
Voilà.
Et c'est vrai qu'Apple.
Et donc, écran plus fin, écran rétractable.
Voilà. Et vous savez que Samsung,
très malin.
Samsung,
alors le AMOLED par rapport au OLED, c'est quoi? C'est une version, une variante du OLED.
Variante, pour moi, c'est une variante.
D'accord, parce que moi je connais le AMOLED.
Voilà.
Ben, oui, écoutez, voilà.
C'est une variante.
Sur votre téléphone, par exemple, vous avez du AMOLED.
Voilà.
Votre Samsung, il est AMOLED.
Voilà.
Par exemple.
C'est ça.
Et Apple est en train de lorgner sur cette technologie parce qu'aujourd'hui, sur les écrans des iPhones, on n'a que du LCD. Ils aimeraient passer donc à l'AMOLED, car ça, voilà. En fait, ça a une qualité d'image qui est beaucoup plus flatteuse.
Alors il y a ça. Les contrastes sont meilleurs.
Les contrastes sont meilleurs.
Intéressant géographiquement, c'est que ça se passe près de Schengen, que ça se passe dans un endroit où il y a toujours à Taïwan, un endroit où on fabrique extrêmement rapidement ce genre de oui, c'est l'usine digitale.
Vous dites que Taïwan, c'est près de Schengen?
C'est pas très loin.
Shenzhen, vous voulez
Shenzhen,
dire.
Shenzhen, pardonnez-moi.
Parce, oui, parce que l'espace Schengen,
ah, non, entendu trop de télévision française, là. Je reviens à ma Chine. Exactement. Merci, Antoine. Oui, absolument.
Mais alors, c'est étonnant parce que Apple ne confirme pas cette information.
Non, non,
visiblement.
Confirmé.
Voilà, ils disent.
Parce qu'ils n'ont pas envie de la confirmer.
Voilà.
Enfin bon.
Oui.
Hein, elle a l'air quand même assez réaliste compte tenu de tout ce qu'ils ont pu observer sur place. Hein.
Voilà,
c'est-à-dire les mêmes signes de toutes les usines d'Apple ont été observés sur place dans le nord de Taïwan.
Et peut-être que l'iPhone 7, donc, qui est prévu pour la rentrée prochaine, est en train de se construire, de s'inventer.
À Taïwan.
À Taïwan. Pourquoi pas. Ou peut-être l'iPhone 8, hein. On ne sait pas. Lila Megraoua est avec nous, autre figure emblématique de cet atelier. Lila, une petite news. Bonjour,
oui,
Lila, au fait.
Bonjour. Bonjour, François. Je vais vous parler d'une appli magique, qui a été développée par le MIT, qui a été baptisée le Reality Editor.
Ouais.
Un programme et qui permettrait tout simplement de contrôler tous vos objets connectés, à savoir qu'on serait en mesure de scénariser, d'éditer plus ou moins des actions automatiques pour tous les objets connectés. Alors je vais vous dire comment. Alors imaginez, vous êtes armé de votre smartphone et de ce système développé, le Reality Editor. Mm-hmm. Vous regardez votre lit au travers de l'écran de votre iPhone. Des cercles vont apparaître autour du lit. Maintenant, vous vous tournez vers la fenêtre et vous regardez votre voiture. Et ben, vous avez tout simplement les deux objets vont autour des deux objets vont apparaître des points. Mm-hmm. Reliés en traçant littéralement un lien sur l'écran entre les points présents sur chacun des appareils. Et en fait, à partir de là, il va déduire certaines actions et vous proposer tout simplement un menu de réglage en fonction des objets sélectionnés. À savoir qu'en fait, au fur et à mesure, il va comprendre si vous braquez votre smartphone vers le lit, si jamais le lit était intelligent, et si vous braquez votre smartphone vers le véhicule, il va comprendre qu'en fait, dès lors que vous quittez votre lit avec votre smartphone, la climatisation de votre voiture va se mettre en marche. Alors, c'est un peu compliqué.
Alors
c'est
là, c'est vrai que Lila s'est dit,
ça.
Pour la dernière de l'année, je vais me trouver une news incompréhensible et je vais essayer de la rendre compréhensible. C'est beau. C'est magnifique.
C'est un bel effort.
Mais vous pouvez pas imaginer. C'est une news avec des schémas, des trucs. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a un resto qui était en jeu là. Non, il y avait pas un pari entre eux avec Constance ou Aurore, non? Il y avait rien comme ça? Même pas?
Non, du tout. Je voulais parler de réalité augmentée.
C'est magnifique. Alors là, franchement, Lila, c'est
la complexité augmentée.
Non, mais on a un peu compris le concept.
Non, mais disons que j'ai pris deux mauvais exemples.
Oui, parce qu'un
lit intelligent.
Oui, c'est rare.
C'est pas pour tout de suite.
C'est pas pour tout de suite.
Un lit connecté.
Non, mais ça peut donner des idées.
Remarquez, Dunlop Pillow s'est lancé dans le matelas connecté.
En plus.
Donc.
Voilà, on n'est pas loin.
On n'est pas loin.
Bon. Jean de Chambure, c'est Antoine Cyr qui est à côté, c'est pas Jean, parce qu'ils ont le pull de pratiquement
oui,
de la même couleur. Moi,
deux.
je les confonds maintenant.
C'est mais assez raccord. Enfin, non, le vôtre.
Regardez la chemise en plus. Alors, c'est difficile à la radio. Ils ont une chemise rayée bleue tous les deux
curieux,
et
ça,
un pull mauve. Mais vous vous êtes appelé avant ou pas?
Non, pas du tout, non.
Eh bien, dites-moi.
Non. On a juste acheté ensemble, on s'est cotisé pour acheter ensemble un petit
magnifique
stock de chemise et de pull.
Voilà, d'accord.
Thibault,
voilà.
L'état au bas haut.
C'est beau.
Voilà.
C'est ça l'amour.
Voilà.
Antoine, quand même, malgré tout, un mot sur le crash test qu'on retrouvera tout à l'heure en fin de,
oui,
d'atelier.
Alors, le crash test sera consacré à Noël. La semaine dernière, je vous avais parlé du Père Noël russe. Hein,
oui.
Voilà. Et donc,
il faisait un peu flipper quand même. Hein.
Oh non, mais il faisait pas du tout flipper. Il venait avec son assistante.
Oui, c'est vrai, sa secrétaire blonde.
Il était tout à fait.
Ouais, ça part.
Il était tout à fait sympathique. Et donc là, je vais vous parler d'un autre Père Noël tout à fait sympathique, qui est le Père Noël tahitien.
Ah.
Et par contre, si je vais vous en parler, c'est bien sûr en hommage et en signe d'amitié pour nos amis de Polynésie française, qui ont connu des intempéries assez violentes, impressionnantes, et qui ont malheureusement fait une victime et qui ont malheureusement poussé beaucoup de gens en dehors de leur maison. Donc voilà, on va parler de leur Père Noël pour leur faire un petit signe
amical. Père Noël tahitien, voilà, qui espérons-le va réparer tout ça. Vous restez avec nous, la suite de l'atelier dans un instant, Silicon Carnet, Cyber Gadget, et donc le crash test, Antoine, ce sera aux alentours des 18h, un petit peu avant. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques minutes, on parlera de contrefaçon sur Internet. Sur Internet, comment stopper la contrefaçon, en tout cas comment la marquer. On verra ça dans quelques minutes. On va retrouver aussi la sélection de gadgets d'Antoine Cyr. Mais auparavant, c'est notre Silicon Carnet. Nathalie Doré est avec nous et encore une fois, on est très heureux de l'avoir dans notre studio à Paris. Nathalie, on va parler cette semaine de service design.
Et oui, alors un terme qui est pas encore si connu que ça, mais qui grimpe aux États-Unis.
Mm-hmm.
Alors souvent, quand on parle de design, on pense plutôt à un beau meuble, design italien. Mais non, là, on parle de service design et ça prend de plus en plus de place dans les entreprises.
D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que le service design, Nathalie?
Alors, c'est très simple. Et en fait, celui qui a ouvert la voie, c'est notamment Apple. C'est une approche centrée utilisateur. Donc, mm-hmm. c'est se dire, quand on pense à un service, on va vraiment penser le concept en fonction des besoins du client. On va partir du client, partir de son besoin et on va designer le service en fonction de ça. Et on se limite pas seulement à l'aspect extérieur du produit, donc on pense design, voilà, beau produit. Non, il est partout le design, et par exemple, Apple, donc champion du design, ne propose pas que des produits à l'esthétique intéressante, mais aussi une interaction qu'on peut avoir avec les produits, et c'est là la fameuse Apple Experience.
Ah, voilà. Alors vous parlez d'Apple, mais que font les autres grands acteurs du digital? Ils sont présents aussi?
Oui, alors c'est un sujet qui concerne tout le monde, hein. Il y a la chasse d'ailleurs aux designers, comme on l'a vu, aux développeurs il y a quelques années,
ouais.
Et les GAFA, donc d'une manière générale, accordent une place extrêmement importante au service design. Alors d'ailleurs, le retour aux commandes de Larry Page chez Google en 2011 a vraiment initié une transition chez Google, plaçant le design au centre de leurs priorités. Et puis si on regarde aussi chez Facebook, voilà, il y a 35 offres d'emploi actuellement sur le service design, donc on voit que c'est un sujet important aussi pour Facebook. Mais au-delà des GAFA, même les investisseurs recrutent des designers partenaires. Et en fait, ils sont intéressés parce que ces designers jouissent d'une vision transversale de l'entreprise et ils ont un rôle clé sur la mesure de l'attractivité potentielle d'une start-up. Donc ils amènent une nouvelle vision.
Mmh.
Et il y a eu beaucoup de transactions d'arrivées au sein des grands venture capitalistes américains, de designers connus qui viennent de chez Google, de chez Apple, et qui viennent apporter cette expérience au sein des venture capitalistes.
Donc en conclusion, Nathalie, si j'ai bien compris, tout le monde s'y met hein, en service design.
Oui, c'est vraiment le sujet qui monte et qui est important. Alors les entreprises sont parfois encore timides en termes de recrutement, pour recruter eux-mêmes des profils de designers au sein de leurs équipes. Mais on a des cabinets de service design extérieur qui permettent aux entreprises de se familiariser avec ces sujets et du coup de voir la valeur que ça apporte et ensuite d'internaliser les services designers. Donc on pense bien forcément à IDEO, qui est une entreprise de design historique dans la vallée qui est à San Francisco, à Palo Alto. Et son fondateur, Bill Mugwidge, en figure de proue, participe et a participé depuis de nombreuses années à vulgariser l'importance du design pour les entreprises.
Voilà, surveillez bien le service design. On va en entendre de plus en plus parler en 2016. Merci beaucoup, Nathalie.
Merci.
Et on enchaîne, après Nathalie Doré, donc, de l'atelier US, avec les gadgets d'Antoine Cyr. Mon cher Antoine, qu'avez-vous sélectionné pour nous cette semaine?
Écoutez, ça
à l'approche des fêtes, est-ce que ça peut être des idées de cadeaux pour Noël?
Oui,
alors ça c'est bien.
Ça fait un certain nombre d'années que j'attendais le presse-purée atomique.
Oui, c'est vrai. Ah, voilà. Qui est quand même, c'est un objet mythique, ça.
Voilà, absolument. Et figurez-vous qu'il n'est toujours pas là, le presse-purée atomique. Et en revanche, j'ai trouvé, pour me consoler, le briquet intelligent.
Ah, ça c'est bien.
Oui.
Il vous déclare votre flamme, en fait.
Ah, ça c'est pas mal.
Ouais.
Mais ça, ce serait pas le briquet intelligent, ce serait le briquet sensible.
Oui, c'est vrai. Le briquet amoureux.
Briquet amoureux. Donc là, c'est le briquet intelligent. Et donc, le briquet intelligent, figurez-vous qu'il est fait pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Alors évidemment, ce qui serait le plus simple, c'est un briquet qui ne marche pas et qui ne peut pas allumer votre cigarette.
Finalement, un briquet qui ne marche pas, il est très intelligent.
Très
quand
intelligent.
On veut arrêter de fumer. Hein.
Voilà, mais non, là, c'est pas ça. C'est un briquet qui est connecté à une application mobile qui permet d'abord de récupérer en temps réel toutes les données de l'utilisateur du briquet sur la façon dont il consomme la cigarette.
Donc, et oui, parce que plus il allume le briquet, plus il allume de cigarettes.
Alors,
on peut l'imaginer.
En fait, effectivement, sa caractéristique, c'est que celui-là, il marche. Il fonctionne comme un briquet classique. Et comme il fonctionne comme un briquet classique, vous lui faites confiance.
Ah oui.
Et chaque fois que vous l'utilisez, il vous observe. Et il transmet les données
confidentielles
qu'il perçoit à votre médecin, et donc votre médecin décèle des schémas dans des habitudes, dans des manières de fumer qui vont lui permettre de vous guider dans la manière d'arrêter.
Ah, d'accord.
Dis-moi quel fumeur tu es et je pourrais te faire arrêter plus facilement. Tel est le proverbe du médecin qui veut aider son patient à
arrêter
de fumer.
Grâce au briquet connecté.
Et donc, grâce au briquet intelligent, il pourra le faire. Donc, l'application ensuite à laquelle est connecté le briquet permet à chaque usager de se fixer des objectifs quotidiens. Par exemple, de pas fumer pendant certaines tranches horaires. On peut aussi contextualiser chaque cigarette fumée en ajoutant des informations. Par exemple, est-ce que j'ai fumé suite à un café, à un moment d'ennui, au réveil? L'application donne aussi des conseils pour les périodes de sevrage de l'utilisateur et permet le partage de ses objectifs avec ses proches pour que si jamais vous avez fumé deux fois en 4 heures alors que vous vous étiez promis de fumer une fois toutes les 4 heures,
vous vous faites taper les doigts sur les doigts
exactement
par la
alors,
famille. Oui.
Voilà. Alors, il faudra quand même s'habituer, pour ceux qui sont conquis par l'idée, à recharger leur briquet avec un port USB. Voilà. Et puis, je peux vous dire aussi que c'est la start-up JICC Lighter qui est à l'origine de ce projet. Et donc, il va être début 2016, ce briquet disponible au prix de 59€. Donc, il n'est pas... il est cher, mais pas exorbitant. Et il va passer ensuite à 99€.
D'accord.
L'application est gratuite. Hein.
Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de d'objets comme ça pour arrêter des addictions hein, qu'on peut avoir et c'est assez intéressant. Donc dernière innovation en date, ce briquet connecté. Mon cher Antoine, on revient dans un instant avec Focus Startup, notre enquête de l'atelier, notre passion selon Sanette. Et puis si vous êtes fan tout comme moi d'Antoine Cyr depuis toujours en fait, eh bien sachez que vous le retrouverez tout à l'heure pour le crash test. Un crash test dont il a le secret. A tout de suite sur BFM Business pour la suite de cet atelier numérique.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Merci d'être avec nous, comme chaque samedi pour l'atelier numérique. Dans quelques instants, ce sera notre enquête de l'atelier. On va s'intéresser à deux start-up françaises, deux pépites françaises qui s'attaquent à la contrefaçon. Et c'est un sujet passionnant, vous verrez. Comment peut-on combattre la contrefaçon, notamment pour ce qui concerne les marques de luxe? On verra ça dans quelques minutes. Mais auparavant, notre focus start-up est en compagnie d'Aurore Giraud. On va parler des démodés de Microsoft.
Aurore. Oui, alors nous sommes avec Pascal Fitt, qui est CEO in Residence de Microsoft Venture. Pascal, bonjour.
Bonsoir Aurore.
Alors,
et bonsoir François.
Bonsoir.
Alors, est-ce que vous pouvez d'abord, avant de se lancer sur le démodé, nous rappeler quelle est la vocation de Microsoft Venture?
Oui, alors tout à fait. Microsoft Ventures est un accélérateur à vocation internationale. Nous avons 7 accélérateurs dans le monde, dont bien sûr celui de Paris. Nous avons également Londres, Berlin, Bangalore, Tel Aviv, Pékin et plus récemment Seattle. C'est un programme international qui a vocation à accélérer les startups dans leur développement, en particulier le développement commercial que nous assistons avec des mises en relation auprès de clients et partenaires de Microsoft. Donc nous avons un engagement total de la part de Microsoft et des équipes de Microsoft, notamment les équipes commerciales, qui assistent les startups dans la mise en relation avec des clients et des partenaires internationaux, en France et à l'international.
Donc du coup, mercredi, c'était le Demo Day, donc la fin de la saison. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan? Comment ça s'est passé?
Alors ça c'est la promotion n'est pas tout à fait terminée puisque le programme se terminera début janvier, mais nous avons eu une promotion assez intéressante avec d'ailleurs des acteurs dans la lutte contre la contrefaçon, une société notamment qui s'appelle Brand Analytics. Alors ces sociétés ne pitcheront leurs projets devant des investisseurs que dans quelques mois, puisque il y a un décalage entre la promo et le Demo Day. Donc le Demo Day qu'on a organisé il y a quelques jours, c'était un Demo Day des promos antérieures, donc avec des startups qui ont suivi le programme de mars à juillet et que nous avons accompagné avec toute l'équipe Microsoft Startup pour accélérer son développement. Alors on aura effectivement de très bonnes nouvelles à annoncer dans les semaines qui viennent, puisque notre vocation c'est précisément d'accélérer le go-to-market pour leur permettre après de lever des fonds plus facilement. Donc on aura beaucoup de choses à annoncer dans les semaines qui viennent.
Est-ce que vous avez des exemples de startups remarquables cette année?
Alors, sur la promo qui a pitché aujourd'hui, nous avons effectivement des sociétés extrêmement intéressantes. Je vais en sélectionner quelques-unes. J'espère que les autres ne manqueront pas trop de ne pas parler d'elles directement, mais il faut faire une sélection. Donc, je mettrai en évidence une société qui s'appelle Digimi, qui est un petit peu le coffre-fort numérique, qui propose en fait des solutions pour récupérer les données numériques qui sont un petit peu éparpillées partout, et leur vocation c'est de redonner le pouvoir aux utilisateurs de ces données en permettant en fait aux internautes de mieux gérer leur patrimoine numérique et de par exemple de dire si oui ou non ils souhaitent que ces données soient utilisées. Donc ça c'est une société qui se développe très bien et qui a été accélérée avec succès. Mm-hmm. Nous avons également une autre société qui s'appelle Dialwant qui propose une solution extrêmement intéressante à vocation destinée en fait au service à présent des grands comptes et qui permet en fait à ces grands comptes de s'affranchir, je dirais, des call centers traditionnels en coupant justement cette interaction vocale avec un système de d'écran qui permet en fait avec des questionnaires à choix multiples d'orienter le client. Mm-hmm. Ce qui a deux impacts positifs, c'est d'une part le client est satisfait parce qu'il a des réponses à ses problèmes, il n'y a pas de temps d'attente, et de l'autre l'entreprise est très intéressée parce qu'il y a des taux de satisfaction à deux chiffres et près de 100%. Mm-hmm. Puisque les demandes sont traitées en temps et en heure.
Parfait, merci beaucoup Pascal Fitt.
Avec plaisir.
Merci.
Merci. Rappelons que vous êtes CEO de Residence at Microsoft Venture. Merci Aurore Giraud. Et place maintenant à notre enquête de l'atelier. Lila nous a rejoint dans ce studio. On va s'intéresser à la contrefaçon qui sévit sur le web. Il y a des sociétés, des pépites comme on dit, qui essaient justement de régler ce problème.
On va en découvrir deux. Alors juste un chiffre, 300 milliards d'euros chaque année, c'est le manque à gagner que représente pour les marques la contrefaçon, dont 6 milliards en France. Alors nos deux invités ont chacun développé une technologie. Par ailleurs, on le verra très vous êtes très complémentaires pour lutter contre la contrefaçon. Christian Guichard, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors Christian Guichard, vous êtes PDG d'Authentication Industrie.
Absolument.
Et Zouer Guédry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Zouer Guédry, vous êtes PDG de Data et Data. Alors, avant d'approfondir les technologies que vous avez mises en place, quelles sont, je jette la question à la ronde, quels sont les premiers secteurs à être impactés par la contrefaçon ? J'imagine que si l'e-commerce explose, la contrefaçon aussi ? Zouer ?
Oui, absolument. En fait, la contrefaçon sur le web est liée au développement du e-commerce. Mais aujourd'hui, le développement du e-commerce est derrière nous. Aujourd'hui, c'est plutôt le développement des réseaux sociaux et de la possibilité de vendre sur les réseaux sociaux. Et c'est là que se développe la contrefaçon et la distribution de contrefaçon.
Un exemple, je peux avoir un lien sur Twitter qui me propose un sac d'une marque de luxe ou des chaussures de luxe, c'est ça ?
Voilà, vous pouvez avoir le lien sur Twitter qui vous renvoie vers un site marchand qui vend des produits de contrefaçon, ou vous pouvez avoir des profils sur Facebook qui ne font que vendre et proposer à la vente des produits contrefaits.
D'accord. Facebook, qui spam en fait les groupes, les pages, etc. Facebook, c'est ça ?
Donc, il crée carrément un profil
qui
ne fait que vendre des produits contrefaits. Vous pouvez avoir la même chose sur YouTube, vous pouvez l'avoir sur Instagram, vous pouvez l'avoir sur pratiquement l'ensemble des réseaux sociaux qui sont influents aujourd'hui et qui peuvent atteindre des centaines de millions de personnes facilement.
D'accord. Donc ça va bien au-delà du site web traditionnel, enfin on va dire qui va vendre des produits contrefaits.
Ça va très au-delà de ça. Mmh. Ce que nous constatons nous aujourd'hui, c'est que 70 à 90% des distributeurs de contrefaçon se trouvent sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Ça dépend bien sûr de la marque. Il y a des marques qui sont très exposées sur les réseaux sociaux et d'autres qui le sont beaucoup moins.
Alors Christian Guichard, vous avez développé ce que vous appelez un i-code.
Absolument.
Qui peut se targuer d'être à la fois infalsifiable, non copiable et surtout imprimable. Expliquer par quel miracle.
Bon, déjà l'i-code, ça veut dire authentication industrie code. C'est une invention qui date maintenant depuis 2012, date à laquelle j'ai créé la société. Mais je voulais compléter par rapport à ce qu'on venait de dire juste à l'instant. Il y a différentes sortes de fraudes en fait. Vous avez la contrefaçon, mais vous avez également des falsifications qui sont complémentaires, falsification de documents. Et vous avez également l'usurpation d'identité. Ce que fait Authentication Industrie, c'est lutter d'abord contre ces trois fléaux. Donc évidemment le segment, la protection des marques, mais également la protection des documents de valeur, les documents de valeur tels que les billets de SNCF par exemple, la billetterie de spectacle, les chèques de banque, mais également aussi des documents un peu plus régaliens, comme les passeports, les cartes d'identité. Et justement, je viens de signer un contrat pour 5 millions de cartes d'identification dans un pays autre que la France. Voilà. Donc
là, on n'est plus dans le mode internet. Non, plus. On n'est plus dans le monde numérique. On est dans le monde physique avec des vrais papiers.
Absolument.
D'accord.
Moi, je me suis posé au départ la question. C'est quand vous essayez d'envoyer un mail chiffré d'un endroit à un autre, on sait très bien le faire. Mais quand vous recevez ce mail très important, que vous voulez l'imprimer, qu'est-ce qui prouve que ce que vous imprimez,
le destinataire du mail,
et la copie certifiée conforme de l'original numérique? Ça n'existait pas. Donc ce que j'ai inventé l'i-code. Et l'i-code, c'est quoi? C'est vous voyez les codes barres.
Oui.
Les codes barres, c'est un identifiant. C'est-à-dire, ça contient un numéro ou une URL qui va donner une information. Mais ça peut pas être un authentifiant. Pour que ça soit un authentifiant, il faut que ce code barre soit d'une part sécurisé par un certain chiffrement ou déchiffrement. Et deuxièmement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rendu le code barre impossible à copier. C'est-à-dire que si vous prenez mon code barre original qui est sur le document ou sur l'étiquette de la bouteille de vin, si vous la copiez, l'application du smartphone que j'ai développé va vous dire non, ce n'est pas un original,
non,
c'est une copie, donc je ne vous donne pas l'information.
D'accord.
Ok.
Ça, c'est la première partie de ce que je fais.
Très bien.
Et quels sont les premiers marchés porteurs pour vous? Ça va être principalement la billetterie, les documents d'identité, d'état civil?
Alors, les premiers marchés sur lesquels nous travaillons sont la protection des documents de valeur. Mmh. Nous avons fait déjà deux pilotes avec la SNCF. Où, par exemple, nous pouvons, sur les billets que vous imprimez chez vous, nous pouvons les protéger, et le contrôleur, avec un simple smartphone, va pouvoir scanner mon iCode et faire sortir la photo du passager.
D'accord.
Donc, on peut imaginer, en ces temps difficiles, qu'au bord des quais, il peut y avoir des contrôleurs qui, en deux secondes, vont scanner et savoir si la personne est bien la personne qui a le droit de rentrer dans le train.
Bien sûr.
Zohar Guedri, pour revenir à ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, que la contrefaçon est plutôt présente sur les réseaux sociaux, mais comment la combattre, justement? Vous avez mis au point, vous, une parade à tout ça?
On a mis au point ça, parce que la technologie que nous avons développée va détecter en temps réel les nouveaux vendeurs qui apparaissent sur le web ou sur les réseaux sociaux. Et finalement, quand on utilise ces nouvelles technologies de Big Data, on en trouve beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pouvait trouver avant. Et donc, il fallait développer aussi un moyen pour riposter pratiquement en temps réel. Et donc, lorsqu'on trouve un vendeur de contrefaçon sur une plateforme, on va le mettre à disposition de la marque, et la marque, en un clic, peut le signaler à l'hébergeur. Donc, elle peut signaler un site web à l'hébergeur du site web, elle peut signaler un profil sur Facebook qui ne fait que vendre exclusivement des produits contrefaçons.
C'est-à-dire que vous automatisez toutes ces démarches, en fait, c'est ça?
Voilà. On les automatise, on les rend simples, et on fait gagner du temps aux responsables des marques, aux responsables juridiques, et on accroît l'efficacité de cette lutte contre la contrefaçon.
D'accord, mais parce que j'imagine qu'un site ferme ou une offre ferme, il y en a une autre qui arrive. Enfin, je veux dire, ça doit se multiplier.
Absolument. Et c'est ce qui se passe, ou c'est ce qui...
Ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué à chasser, non?
C'est ce qui se passe, c'est que dès que vous fermez un site, il y en a 10 qui ouvrent. Et dès que vous fermez un profil, vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, mais il en reste encore quelques centaines que vous n'avez pas encore détectées. La force de cette technologie-là, c'est que lorsqu'on trouve un site, on va automatiquement trouver tous les sites qui lui ressemblent. Donc qui vendent les mêmes produits ou qui appartiennent à la même personne ou qui ont d'autres similarités sur des critères que je ne dévoilerai pas. Et de la même façon, sur les réseaux sociaux, quand on trouve un profil qui vend des produits contrefaits, en général, il n'a pas créé qu'un seul profil, mais il en a créé quelques centaines, des clones. Donc on va trouver ces clones-là. Et quand on les ferme, on en ferme des centaines d'un coup. Donc il peut bien sûr essayer de ouvrir d'autres sites ou d'autres profils sur les réseaux sociaux. S'il utilise les mêmes produits, les mêmes images, les mêmes prix, on va le trouver en quelques secondes.
Que vous n'allez pas éradiquer en fait la contrefaçon, mais vous allez ralentir en fait la propagation de tous ces faux sites ou de tous ces faux profils, en fait, c'est ça?
Absolument. On va rendre la distribution extrêmement difficile et on va déplacer le problème, parce que ces contrefacteurs-là cherchent l'efficacité. Donc quand ils voient très bien qu'une marque est extrêmement vigilante sur les réseaux sociaux, ils vont se décaler sur une autre marque.
Oui. Qui sera plus fragile, voilà, en tout cas.
Ce qu'ils veulent, c'est simplement gagner de l'argent.
Oui, c'est ça.
Christian Guichard, si on devait appliquer l'iCode en ligne, est-ce qu'on pourrait imaginer l'iCode arriver auprès du grand public comme notamment, par exemple, un moyen d'authentifier mes mails, que ce soit si, par exemple, j'envoie une lettre d'embauche ou un contrat avec une signature, une forme de signature électronique. Est-ce que l'iCode serait intégrable?
Alors, oui, bien sûr. Du moment que le document est rematérialisé, là, toute ma technologie a son sens. Je voulais rebondir également sur ce qu'on disait à l'instant, c'est
volontiers.
Que l'iCode dont on vient de parler, c'est la technologie imprimée, scannable, et avec un smartphone. Mais là où ça devient très intéressant, parce que ça c'est la deuxième partie de ce que je fais, c'est que à chaque fois qu'on va scanner, les informations scannées sont envoyés vers un serveur. Donc imaginons par exemple un fabricant de pièces automobiles qui veut suivre, tracer ses pièces automobiles partout dans le monde pour savoir si elles sont bien utilisées. Donc il va distribuer son application auprès des distributeurs, auprès des douanes, auprès des garages, etc. Et le tag, il va taguer sa pièce détachée. Mm-hmm. À chaque fois, ça va remonter sur la plateforme, en original ou en contrefaçon. Et par exemple, à un moment donné, il va détecter une contrefaçon, je sais pas, en Turquie par exemple, qui va remonter sur la plateforme, qui va appeler Monsieur Sécurité de l'équipementier, et qui va pouvoir agir en conséquence. Également, on peut tracer, parce qu'il faut taguer, et une pièce qui est destinée pour le marché turc, tout d'un coup est taguée au Mexique. Ça fait bizarre. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle du marché gris. C'est-à-dire que il y a dans le système de distribution de la marque, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien.
De pas bien.
Et ça, on arrive à le faire.
Voilà, et vous le remontez à la marque. Ouais. Parfait, très bien. Ben, intéressant tout ça.
Oui.
Merci à nos invités pour leur témoignage. On remercie Christian Guichard et Zouer Guédry. Merci à tous les deux. Et vous restez avec nous la suite de l'atelier numérique avec Lila et toute l'équipe de l'atelier dans un instant. On va se faire un fight Silicon Valley contre Silicon Shanghai, les amis.
Yes.
Ça va être bien, ça, avec Nathalie Doré et Jean de Chambure. À tout de suite sur BFM Business.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Alors, si vous êtes un accro à l'atelier, vous connaissez sans doute l'Internet des objets, mais connaissez-vous l'Internet des drones? Eh bien non, ça tombe bien, on va en parler dans quelques instants avec nos invités. Ce sera notre passion selon Sanette. Mais auparavant, chers amis, alors là c'est un grand moment. Vous savez que l'atelier est présent partout, à Paris bien sûr, mais aussi à San Francisco, vous le savez, nous y étions il n'y a pas longtemps, mais aussi à Shanghai, en Asie. Et là, on va vous proposer, puisque c'est voilà le tout dernier atelier de cette année 2015, eh bien une espèce de comparatif entre les innovations qu'il y a d'un côté à San Francisco et de l'autre côté dans un monde complètement différent, qui n'a rien à voir. C'est Shanghai. Jean de Chambure qui est avec nous, vous le savez, puis Nathalie Doré aussi. Rebonjour à tous les deux. Et on va commencer peut-être par les investissements.
Oui, alors gros sujet de l'année côté US. 2015 a été l'année vraiment boom des investissements et notamment des licornes. Vous savez, les unicorns en anglais. Les licornes qui sont ces startups valorisées plus $1 milliard. Alors, ça fait débat aux États-Unis. D'ailleurs, certaines startups se défendent en disant la valorisation, c'est important, savoir quelle valeur a l'entreprise. Mais finalement, on devrait aussi regarder d'autres indices comme la valeur client. Quelle valeur client les startups apportent au marché. Et du coup, voilà, ce concept de licorne est toujours très présent. Il y en a de plus en plus, mais il est un peu remis en question.
À Shanghai, Jean, qu'est-ce que ça donne les investissements ?
Alors à Shanghai, bon déjà, il faut dire que la Chine, de manière générale, regarde bien entendu beaucoup les États-Unis, admire beaucoup les États-Unis. Ils peuvent pas forcément toujours l'exprimer.
Et investissent aussi.
Pleinement, mais voilà, ils investissent. Il y a des entrepreneurs chinois qui réussissent très très bien aussi dans la Silicon Valley. Ça, Nathalie, je pense que vous avez dû en rencontrer.
Il y a beaucoup d'inspiration aussi, on va dire, pour pas dire de copie.
Alors voilà, mais
services.
Alors là c'est, je pense que
c'est
ça a changé.
C'est plus subtil que ça.
Ouais, je pense que ça a changé.
C'était le cas au début.
Ouais. C'est très naturel, il faut se rappeler quand même bien que sûr. Nous dans au XVIIe siècle, on a copié la Chine. Si on fait de la porcelaine, c'est parce qu'on a copié la Chine.
Bon, évidemment.
Voilà, donc ils nous copient aujourd'hui. Bon, voilà, c'est la vie. Mais en revanche, ils copient et ils commencent à faire des choses un peu en plus pour améliorer des services. Et ils créent
l'adapter à leur culture.
Et adapter des cultures. Je prends l'exemple quand même le plus connu en Chine, c'est WeChat. Voilà, WeChat, ça ressemble à peu près, on peut dire, si on voit très vite, on dit ça ressemble à WhatsApp, mais pas du tout, parce que c'est aussi un peu de Twitter, c'est aussi des moyens de paiement extraordinaires, c'est aussi pour régler ses factures, c'est aussi customiser sa voiture, enfin, c'est un ensemble d'usages qui est complètement extraordinaire, plus, moi, ce que j'adore, c'est ces petits talkie-walkie de WeChat, où vous pouvez dire comme ça, plap, un petit message, et l'autre vous répond en disant plap, quelque chose. Enfin, je veux plap, parce que c'est évidemment, c'est chinois, vous l'avez compris.
Oui. Bon. Vous n'êtes pas encore parfaitement fluent en chinois.
Non.
Ça va venir.
J'y travaille, j'ai ce qu'on appelle le survival kit. Pour parler un petit peu comme ça, plus ou moins compris, au taxi, à l'hôtel, bon.
Parfait.
Donc ça, c'est quelque chose. Alors, pour revenir sur les investissements, François, c'est les dragons. Pour faire très simple, il y a les grands acteurs chinois, les Baidu, Alibaba, Tencent, qui vont se transformer, qui vont pas hésiter de passer, par exemple, pour Alibaba, d'un modèle de e-commerce à un modèle d'entertainment, et ils vont investir massivement. Ils ont racheté Youku, par exemple, qui est l'équivalent de YouTube. Alors, pour le coup, là, on va dire, c'est assez proche. Mais voilà, ils n'arrêtent pas. Xiaomi devient aussi un fournisseur de telco.
D'accord.
À la fois, smartphone et telco. Enfin, voilà, ils se transforment, c'est les dragons qui se transforment.
La santé, Nathalie.
Oui, alors la santé aux États-Unis, ça a été aussi une année marquante avec les digital players qui viennent sur ce terrain. Alors il y a Google qui a investi dans Oscar, qui est une première start-up d'assurance santé sur le concept de pay as you live. Donc vous avez des rewards sur votre assurance santé si vous marchez, si vous faites vos pas. Donc Google a mis un pas dans la santé. Google a créé aussi Calico pour améliorer la durée de vie, enfin, et prolonger la vie, comme ils disent. Et puis il y a IBM Watson qui est intéressant sur tout ce qui est détection du cancer et traitement du cancer. Donc on passe aux États-Unis de cette vague folle des objets connectés où on était plus dans la mesure, la prévention, à des sujets plus sérieux de recherche. Et là, on utilise la data et l'intelligence artificielle pour aller traiter ces sujets de santé qui touchent tout le monde.
Ouais, la santé, Jean de Chambure, sujet capital en Chine. Quand on voit que c'est parfois compliqué dans ces grandes villes qui sont complètement submergé par la pollution.
Oui, exactement. Alors là, il y a d'ailleurs des green tech qui sont en train d'arriver progressivement. Il y a bien sûr des apps aussi qui vous préviennent de la pollution, ce qu'il faut faire pour arriver ou pas. Je voudrais quand même donner un ou deux chiffres là-dessus parce que on a toujours tendance à avoir ce côté effectivement très négatif sur ce sujet. Mais par exemple, à Shanghai, c'est là où l'espérance de vie des femmes est la plus haute, la plus grande dans le monde. C'est-à-dire que les femmes qui vivent à Shanghai, parce qu'elles font des tas d'exercices, sont en pleine forme et elles arrivent au-delà de 80 ans. Donc c'est vrai qu'on a des images.
Oui.
Bon, donc ça, c'est la santé.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de la pollution, mais
ça existe. Hein,
mais
c'est une réalité.
Une composante, j'imagine que vous l'avez vécu ces derniers temps.
Bien sûr, mais comme on l'a vécu, je pense, à Londres dans les années 70, le froc, voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est des sociétés industrielles avec du charbon. Bon, il faut qu'ils changent ça, ils le savent, ils vont le faire de plus en plus vite parce qu'il y a une pression quand même aussi de la population sur ce sujet, donc le gouvernement se saisit ça et va le changer. Et après, on rejoint quelque chose aussi de très asiatique. Vous savez, tout ce que fait Google et ce que Nathalie explique sur la santé prédictive, ça, c'est complètement en phase avec la médecine traditionnelle chinoise, qui est normalement un bon médecin chinois. Vous anticipe des choses qui devraient vous arriver et vous protège. Et vous ne devez pas trop souvent le voir, ce médecin, normalement.
Donc, Nathalie, les transports.
Alors sur les transports, on a eu un vrai déplacement géographique puisqu'en fait Détroit, qui était la capitale de l'automobile, Détroit arrive à San Francisco. Hein, les constructeurs automobiles ont implanté leur lab en Silicon Valley parce qu'ils ont vraiment compris que les talents étaient là, l'intelligence technologique était là. Et puis on a aussi les gros acteurs qui s'y sont mis, bien sûr. Alors on pense tous à Google Car qui a été lancé fin 2014 et il y a la nouvelle Google Car là qui est sortie en 2015. Et puis ces sujets de voitures autonomes, alors ils sont tous dessus, que ce soit les acteurs traditionnels de l'automobile ou les nouveaux acteurs. Et on nous prédit qu'en 2050, 100% des voitures seront autonomes et rouleront donc sans chauffeur. C'est un sujet qui du coup anime beaucoup la Silicon Valley en ce moment, et c'est un sujet qui est intéressant parce que ça va redonner de l'autonomie à des gens qui en ont perdu. Voilà, le fait de plus pouvoir conduire, je pense, c'est un moment fort dans la vie, et ça va être intéressant en termes de nouveaux services, de voir comment cette technologie de voiture autonome va changer et amener des nouveaux services.
Voilà, et on n'a pas évoqué le concept d'Hyperloop de Elon Musk, complètement fou,
incroyable,
l'espace, etc. La Chine, Jean, les transports.
Un point là-dessus qui est, alors évidemment, il y a aussi Baidu qui va faire des voitures autonomes, donc ils sont quand même vraiment là dans le sillage de ce que fait Google. Un point très intéressant, c'est Didi Kwaidi, dont on a pas mal parlé. Didi, le petit frère, Kwaidi Express, petit frère Express. Et donc là, ils font un modèle intégré, c'est-à-dire que c'est à la fois des chauffeurs qui viennent donc privés, mais c'est aussi des taxis. Ils font des partenariats avec les grandes villes comme Shanghai, et c'est aussi de la voiture partagée type BlaBlaCar. Tout ça dans la même appli, et très à l'oral et un peu à la crier, vous dites tata, je veux le chauffeur, et ils regardent en fonction de l'endroit où ils sont.
Ah, il faut crier dans l'application pour que ça marche.
Enfin, il faut s'exprimer oralement, mais vous savez que le chinois adore parler.
Enfin, ah oui.
Oui, ils sont très, surtout à Shanghai, ils sont un peu marseillais même là-dessus. Ils aiment beaucoup l'oral, hein. On le voit. Ils arrivent à comprendre.
Ce qui est problématique quand on maîtrise pas la langue. Mais après, ça vient.
Mais ils ont une grande tolérance au franco-chinois, c'est-à-dire un chinois qui est vraiment pas très très beau comme le mien. Ils arrivent à peu près à décrypter, beaucoup plus qu'à Pékin.
Très bien. On parle d'espace en Chine ?
De quel espace ?
De l'espace, de la conquête de l'espace.
Ah, alors oui, on en parle, mais et là, je pense que c'est Nathalie surtout qui a
des choses à dire.
Ah oui, Amazon a quand même fait partir et fait réatterrir au même endroit sa fusée. Il a vraiment été le premier, alors devant Elon Musk.
Oui, qui a atterri verticalement en fait.
Qui
a atterri de la même manière qu'elle avait décollé.
Ouais. Et le premier qui avait ouvert la voie, c'est quand même Virgin. Donc Virgin, Google, Amazon et SpaceX se tirent la bourse sur en effet la conquête de l'espace.
Nous, c'est les drones.
Et vous, c'est les drones. Voilà. Merci à tous les deux pour ce fight techno innovation entre d'un côté l'US et Nathalie Doré et de l'autre côté l'Asie et Jean de Chambure. Merci beaucoup.
Merci.
Et vous restez avec nous dans un instant la suite de cet atelier. On va parler de l'internet des drones avec nos invités et Lila Megrao. À tout de suite.